Oh, c'est Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le jour d'aujourd'hui, qu'il soit aussi consacré au Seigneur et que ce qui va être pas seulement dit aujourd'hui, mais ce qui doit être dit aujourd'hui puisse être compris de tous et être révélé à tous et soit clair pour tous, pour que réellement chacun soit enseigné par Dieu lui-même et devienne un seul cœur et une seule âme. Nous sommes très proches du retour du Seigneur et nous le voyons au signe des temps et particulièrement aussi dans le peuple d'Israël et nous le voyons aussi aux adversaires d'Israël qui, n'est-ce pas, ont décidé de d'effacer le peuple de Dieu parce que, comme ils le disent, il n'a aucun droit d'existence. Mais c'est Dieu qui prononce le dernier mot sur son peuple terrestre d'Israël. Bon, cela ne me plaît pas tellement, mais seulement pour information. Le bureau de voyage nous a fait une proposition pour un voyage en Israël du 3 au 13 mai 2010, cette fois-ci, beaucoup moins cher que la dernière fois, et donc à peu près 1 700 euros. Comme déjà mentionné, avec un appel est lié une responsabilité. Et nous l'avons aussi entendu du frère Thomas, et il y a aussi des frères de l'Europe qui depuis des années sont allés aux États-Unis, ont été aux États-Unis et ont rencontré aussi personnellement les frères là-bas. Le frère Menet était à Jeffersonville, le frère qui était de Paris, et d'autres frères, je crois le frère Didier et d'autres frères étaient aussi là-bas, mais en fait, je n'ai pas besoin de confirmation d'un homme. Dieu lui-même a confirmé, il a ouvert des portes jusqu'aux extrémités de la terre et le message a été porté. Bien sûr, ce qui est très douloureux, il y a plusieurs choses que nous déclarons être des falsifications. Ce livre que j'ai devant moi, l'histoire d'un prophète, intitulé l'histoire d'un prophète, d'un homme très connu, qui a été édité par un homme très connu dans le message. Et ici est écrit ce qu'il a écrit lui-même. Et cela n'a rien à voir à faire avec ce que frère Branham a dit. Je vais vous le lire rapidement, ce que cet homme ici écrit, et c'est-à-dire, tel que Jean-Baptiste a été envoyé lors de la première venue du Seigneur, c'est ainsi que tu as été envoyé comme précurseur de sa première venue, un peu traduit de manière bizarre, mais donc tel que tu as été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, ainsi que tel que Jean Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu as été envoyé aussi pour aller avant sa première venue, donc avant son retour, donc en tant que précurseur de son retour. Dans les deux citations, il manque le mot message. Dans les deux citations, dans les deux, il manque le mot message. Et ça, c'est le grand problème que cette erreur fut faite avec esprit, même dans la nouvelle maison. À Tucson, en Arizona, cela a été gravé de cette manière, citation, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu es envoyé comme précurseur du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et avec cela, pour tous les frères aux États-Unis, donc la fin de tout a eu lieu après le ministère de Frère Branham, et après le ministère de Frère Branham, il n'y a plus rien qui vient. Frère Frank, donc pour eux, n'a aucun droit de prêcher. Seulement Frère Branham avait été envoyé, seulement Frère Branham était le messager, le prophète promis, et tous ceux qui maintenant prétendent porter le message sont dans l'erreur et doivent être rejetés. Et ça, c'est la grande tragédie qui, depuis 30 ans, fait son parcours. Et c'est pour cette raison que tous les frères des États-Unis et aussi tous ceux qui sont sous leur influence se sont séparés de nous, ou alors ils prêchent seulement ce que Frère Branham a dit et l'interprète, ou alors il laisse les bandes magnétiques dans leur forme originale, telles qu'elles ont été apportées, et leur donne leurs commentaires. Ce bien-aimé frère qui a écrit ce livre a ensuite eu l'insolence suivante et a écrit. Il y en a certains qui croient que la voix a dit « Ton message sera précurseur du retour du Christ. » J'ai souligné ça, ici il est écrit dans ce livre. Il y en a qui croient. Ça aurait été plus sincère s'il avait écrit. Il y en a un qui croit. Alors, on aurait tout de suite su, n'est-ce pas, de qui il veut parler. Mais cette forme polie l'a obligé à dire qu'il y en a plusieurs qui croient que la voix a dit « Ton message » ou bien « Le message » sera précurseur du retour du Christ. Nous sommes donné l'effort que chacun doit se donner. Nous avons tiré de l'Internet 16 citations de la bouche de Frère Branham lui-même devant moi, et chacun sur terre peut, n'est-ce pas, toucher utiliser l'Internet et se tirer des brochures de Frère Branham, les citations. Et 16 fois, en relation avec ce que la voix a dit, Frère Branham a utilisé le mot message. En 1954, pour la première fois et pour la dernière fois, le 18 février 1965, 16 fois, 16 citations. Et dans chaque citation, je voudrais en lire deux ou trois. Ici, il y a une citation de la bouche de Frère Branham lui-même qui semble être la plus importante. Vous savez, Frère Branham écoutait la voix qui lui disait « Regarde en haut, regarde en haut », alors qu'il était en train de baptiser la septième personne. Et ici, il le dit, dans cette citation du 10 février 1960, je le lis, regarde en haut. Donc, lève la tête. Et alors que je levais la tête, cette lumière est descendue. Des hommes se sont évanouis. Des personnes se sont évanouies qui étaient présentes. Et la voix a ébranlé, a fait trembler toute la région. Et a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que le message qui t'a été confié sera un précurseur du retour du Christ. Et ensuite, frère Branham donne un complément et il dit, ce n'est pas que je sois le précurseur, mais le message serait précurseur. Donc, il sera prêché avant le retour du Christ dans tout le monde entier, dans le monde entier. Vous pouvez le lire tous. Avec une grande douleur, avec beaucoup de douleur, je prends connaissance de tout ce qui est allé de travers, de tout ce que des frères ont osé vouloir faire et vouloir obligatoirement faire. Seulement quand Dieu t'appelle et t'envoie, c'est seulement alors qu'on doit s'occuper de ce que le Seigneur a dit, nous a dit. Encore une citation. Alors que je voulais baptiser la septième personne, j'ai entendu quelque chose dire. Regarde, lève la tête. Et alors que je regardais là, j'ai levé la tête. Cette colonne de feu est descendue du haut des cieux, directement sur moi, suspendue sur moi où je me tenais, et disait, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du Christ, c'est ainsi que ton message sera précurseur du retour du Christ. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit de la nuée et de la colonne de feu. Qui sont ces frères qui osent dire quelque chose et prétendre quelque chose d'autre et de retenir le peuple éloigné de ce qui a été dit et de ce qui est prêché maintenant à l'Église. Je vais le lire, mais ce serait intéressant si tous vous puissiez recevoir les 16 citations original de Frère Branham. Nous l'avons ici en anglais et en même temps en allemand d'une manière que on peut examiner et voir et si cela est exact ou pas et lire soi-même les citations. Je ne voudrais pas faire d'autres remarques, mais pour moi, tout cela est lié à une douleur immense et particulièrement après ces derniers 30 ans où tout est comme sous une malédiction, des divisions, partout, de la discorde. Les uns suivent ce frère, les autres un autre. Et partout, il n'y a rien d'autre que du désordre. Et tous chantent, le Seigneur revient bientôt, alléluia. Et tous parlent du message et du messager. Et tous marchent dans leur propre voie et font ce qu'ils veulent, sans prendre part à ce que Dieu fait maintenant, en accord avec sa parole. Et ça, c'est la grande douleur que nous portons en nous. Ce n'a pas encore suffi. Le 27 septembre, en 1979, le même frère, là, avec le frère Seuss, a signé une lettre circulaire. Et dans cette lettre circulaire, là, ils ont dit, puisque frère Frank continue à prêcher, est-ce que frère Frank doit continuer à prêcher? Est-ce qu'on doit encore lui donner la chair? Mais bien, mes frères et sœurs, je le dis avec beaucoup de douleur. Je suis conscient que le retour du Seigneur Jésus-Christ est vraiment très proche devant la porte. Et je me suis noté certaines choses, particulièrement aussi alors que frère Branham, le 19 mai 1962, disait, quand la ville de Berlin qui est divisée sera de nouveau unie et que l'Allemagne deviendra un pays réunifié, alors le royaume romain sera rétabli tel qu'il était. Sera rétabli tel qu'il était du temps de notre Seigneur. Imaginez-vous cela, réfléchissez bien. Tous, n'est-ce pas, vous êtes de la génération jeune, mais le 13 août 1961, le mur de Berlin a été construit et il y avait eu des fils de fer, etc., qui avaient été faits. Et ça semblait être pour toujours que cela, ce mur resterait comme ça. Et c'est seulement une année plus tard, après la construction du mur, que le prophète de Dieu dit que quand Berlin ne sera plus divisé et que l'Allemagne sera réunifiée, alors l'Europe sera de nouveau, apparaîtra de nouveau telle qu'elle était auparavant. Et quand nous regardons dans la prophétie du prophète Daniel, dans Daniel particulièrement le chapitre 2 et le chapitre 7, le quatrième empire existera et il vient et toujours plus cela prend de l'ampleur. On remarque que l'Europe prend de l'ampleur. Nous avons 27 peuples, toute l'Europe est ainsi inclue dans cet empire. La Russie a une fonction particulière, le roi du nord, et ensuite quand l'heure frappera, alors ils auront à exécuter le jugement. Et là aussi frère Branham a eu à parler de ces choses, mais s'il vous plaît pensons justement en 1961, la crise de Cuba, et Nikita Khrushchev était à New York et enlève sa chaussure et frappe sur le pult, sur la table avec son talon et menace le monde entier. Et le monde a été divisé à l'époque. Mais ensuite, je le répète encore une fois, le 19 mars 62, le prophète de Dieu voit en vision les développements tels qu'ils seront à la fin des temps, c'est-à-dire la réunification de Berlin et de l'Allemagne, et que par cela, donc, l'Europe, le royaume, l'Empire romain apparaîtra comme cela a été promis ou bien annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures. Nous regardons en arrière et hier, nous avons eu, n'est-ce pas, le jour de la réunification de l'Allemagne. En fait, la date est fausse. C'était le 9 novembre 1980. Et je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que ils ont falsifié la date. On ne voulait pas le 9 novembre en 1938 être rappelé, alors que le 9 novembre 1938, toutes les synagogues ici en Allemagne des Juifs ont été brûlées, et ils ne voulaient pas être que le 9 novembre rappelle la destruction des synagogues ici en Allemagne. C'est à cause de ça qu'ils ont falsifié la date de la réunification de l'Europe, de l'Allemagne, pardon, et ils l'ont mis donc c'était la date de hier, c'est-à-dire le 2 octobre, et il y a beaucoup de millions de Juifs qui ont disparu. Mais nous n'allons pas nous mélanger dans la politique. Nous voulons encore le dire une seule fois. Nous vivons à la fin des temps. Nous vivons pas seulement à la fin des temps, mais nous vivons à la fin de la fin des temps. Et si vous l'avez remarqué dans les prédications de frère Branham, à peu près souvent, de la même manière avec la dès qu'il mentionne Malachie 4, donc en français, oui, en français, Malachie 4, que Dieu enverrait un prophète. C'est ainsi que aussi il a cité Luc 17, et là il s'agit du verset 26 jusqu'au verset 30, tel que c'était du temps de Sodome, c'est ainsi que ce sera de nouveau dans les jours quand le Fils de l'homme se révélera. Luc 17, du verset 26 jusqu'au verset 30. Soyez sincères, dans tous les gouvernements, c'est seulement un état de Sodome et de Gomorre. Et tous ceux qui vivent normal sont appelés maintenant anormal. Et tous ceux qui sont tordus et qui ne sont pas normal sont considérés aujourd'hui comme normal. C'est un état de Sodome. Hein? Nous voyons des homosexuels et tout ça dans le gouvernement, et de telles personnes sont honorées et votées et se laissent voter, et tout cela, bien mes frères et sœurs, c'est nécessaire aussi pour que nous puissions voir des versets bibliques qui toujours de nouveau sont en train de s'accomplir et qui étaient aussi souvent dans la bouche de frère Branham. Et si nous allons dans Luc 21 ici, c'est la fin des temps qui est décrite dans Luc chapitre 21 au verset 24. Ce qui concerne Israël, Luc 21 verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est une partie particulière que le Seigneur, en quelques mots ici, a exprimé. Et nous l'avons aussi vu, et donc éparpillé parmi tous les peuples. Mais nous avons aussi vu qu'ils ont été rassemblés de toutes les nations. Que ce soit le nouveau état des choses, mais l'état des choses que nous connaissons, c'est que de 133 pays, le peuple de Dieu terrestre a été rassemblé de toutes les nations pour revenir et a été ramené dans le pays de la promesse pour que quand le temps arrive, ils soient déjà là où ils ont leur place d'être pour pouvoir avoir part à l'accomplissement des promesses que Dieu donc leur a données. Ça, c'est le... Et donc, une partie de la chose. La deuxième partie concerne donc les nations et les catastrophes naturelles à partir du verset 25. Il y aura des signes. Il lit le verset 25, Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tous, vous savez, lors du dernier tremblement de terre à Sumatra, j'étais la réception, pas loin de la réception de l'hôtel, subitement, dans le hall, donc la réception, pas loin de la réception, et subitement, nous étions tous en train d'être balancés dans le bâtiment, et nous regardions à la lampe du hall de l'hôtel, et la lampe était comme ça, balancée de droite à gauche, et tous aussi nous allions de droite à gauche dans le bâtiment. Et nous l'avons, n'est-ce pas, entendu dans les nouvelles dernièrement maintenant, que justement, pas seulement les vagues de la mer, mais qu'il y a un flot, donc un bruit. La mer est avec un bruit qui ne sauront que faire au bruit de la... Il est écrit ici, au bruit de la mer, au bruit de la mer et des flots. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour écouter les nouvelles, mais dans les jours des votes pour la chancellerie ici en Allemagne, j'ai écouté un peu de nouvelles et il a été aussi montré concernant les tremblements de terre. Et ils ont montré dans le dernier siècle combien de tremblements de terre ont eu lieu. En 1906, concernant Los Angeles, tous ces différents tremblements de terre ont été montrés de 1906 déjà. Et l'autre aussi, la côte appelée San Andreas. Comment est-ce que toujours plus elle fait que se séparer de la côte, et en haut, ça commence vers Seattle et ça va jusqu'à vers San Francisco et Los Angeles. Ça va inclure tout. Ce ne sont pas seulement des secondes. Et la fissure devient toujours plus grande dans cette région. Et ce sera la plus grande catastrophe qui existera sur Terre. La fissure fait que devenir plus grande. Et maintenant arrive le plus grand mais. Donc, ce frère-là ose dire à un homme que quand le tremblement de terre aura lieu, il dit dans ce livre-là que la résurrection des morts aura lieu. Non. Et encore une fois, non. Quand cette fissure-là, donc la côte du temps, du, de la, du côté de Californie et tout ça, de Los Angeles. Tout, s'il vous plaît, doit rester dans l'ordre divin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'excuser pour ça. La véracité de Dieu doit être dans un serviteur de Dieu. Et la véracité de Dieu est seulement liée à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, n'est jamais liée à des illusions. On ne peut jamais dire que quand cette... Et ensuite, la troisième citation de ce frère-là qui a écrit ce livre suit. Il dit que frère Branham a dit que le Seigneur lui aurait apparu sur la même montagne qu'il avait apparu à Moïse. Alors vous pouvez bien vous imaginer comment je ressens. Frère Branham a seulement dit que le Seigneur m'est apparu sur la montagne comme Moïse, dans la colonne de feu, comme Moïse. Mais le comme Moïse n'était pas référé à la montagne. C'est une grande différence que je dise sur la même montagne, mais de la même manière. C'est une grande différence. On ne peut pas permettre qu'une seule falsification ait lieu. Dieu a le droit que la vérité triomphe et que la vérité soit écoutée et crue. Et à cela, nous sommes là pour ça, pour corriger la falsification. Et nous continuons à lire dans Luc chapitre 21. Ici ensuite, suit concernant le figuier au verset 29. Et ça, nous l'avons aussi souvent dit. Cela est à lire dans Osée 9 au verset 10. Que déjà dans l'Ancien Testament, Israël est montré en tant qu'avec le symbole du figuier. Mais maintenant, bien-aimés frères et sœurs, il s'agit simplement de ce que, avec toute la véracité, nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous vivons et que nous puissions nous préparer pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions nous soumettre dans l'obéissance et ne pas marcher dans de propres voies et de propres volontés. Toi-même, Seigneur, détermine tout ce qu'on doit faire. Si, par exemple, il est écrit « Et son épouse s'est préparée », alors nous devons aussi prendre au sérieux ces réunions que nous avons et comprendre qu'elles servent à la préparation de l'épouse Église pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, que cela soit aussi mentionné rapidement, c'était le 1er avril 1962, alors que frère Branham parlait de ce qu'il n'avait pas besoin d'entreprendre ce voyage à Zurich, mais qu'il devait repartir à Jeffersonville et pour là-bas emmagasiner la nourriture, comme nous l'avons aussi entendu de Thomas, de frère Thomas. Autrefois, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas. Qu'est-ce que je savais en 1958 de ce que Dieu avait promis pour notre époque? Qu'est-ce que je savais en 1962? Qu'est-ce que nous avons tous su? Mais à l'époque, mais Dieu nous a ouvert les yeux pour ces choses-là, pas à pas, et que nous a donné la grâce de passer de clarté en clarté et de révélation en révélation. Et ensuite, après le 1er avril, vint le 2e avril, et ça, je le dis avec toute la véracité de Dieu, alors que le Seigneur m'avait donné l'ordre d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole et pour emmagasiner la nourriture aussi. Alors frère Branham m'a dit d'attendre avec sa distribution jusqu'à ce que je reçoive le reste, et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, le reste vint. Et ensuite, le nouveau commencement a eu lieu. Qu'est-ce que je savais à l'époque de comment est-ce que les choses continueraient? Qui a ouvert les portes du mur de fer? Qui a rétabli tous les contacts sur toute la terre, à droite et à gauche? C'est Dieu qui lui-même a pris soin de cela. Et en ce qui concerne le ministère de frère Branham, Dieu a fait en sorte que tout ne soit pas fini, mais qu'un nouveau commencement de la part de Dieu, venant de Dieu, commence et soit manifesté. Et vous savez tous que frère Branham, il lui a été dit lors de son appel divin, tel que à Moïse, il a été donné de signes. C'est ainsi qu'il te sera donné de signes. Si ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Mais ça, c'était seulement l'appel à sortir. Et maintenant, depuis le retour à la maison de frère Branham, ceux qui sont appelés à sortir, ceux qui sont sortis, sont maintenant conduits dans la parole de la promesse. La première partie, c'est de sortir de l'Égypte, de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu, de toute la servitude humaine, et ensuite d'être conduit à entrer dans la parole promise pour notre époque, pour notre temps. Dans Luc, le chapitre 7, il est toujours encore écrit ce que le Seigneur autrefois disait et comment est-ce que il a mis à sa place le ministère de notre frère Jean-Baptiste. Maintenant suit le reproche suivant. Le reproche est le suivant, que si frère Franck a été appelé vraiment du Seigneur, pourquoi est-ce que frère Branham ne l'a jamais mentionné de son nom? Oui, un bon argument, hein. Cet argument-là même me plaît très bien, me plaît beaucoup. Si. Mais ensuite une question, s'il vous plaît. Alors que Dieu, dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, et dans Malachie 3, a dit, une voix retentit dans le désert, ou bien alors je vous envoie mon ange, mon messager avant moi. Est-ce qu'il a cité le nom de Jean-Baptiste? Est-ce qu'il a dit Jean-Baptiste? Il a seulement dit ce qui allait venir, ce qui allait venir, ce qui devait venir. Si le Seigneur avait dit le nom, alors même tous les pharisiens, tout ça, auraient été obligés de croire Jean-Baptiste. Dieu n'oblige personne. Dieu, lui, il accorde sa parole et il la révèle. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent sa parole. La même chose nous concerne aussi dans Malachie 4 et Malachie 3. En allemand, verset 25 et en français, Malachie 4, voici je vous envoie le prophète Élie. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, réimaginez-vous que là il aurait été dit, je vous envoie Élie et son nom est William Marion Branham. Dans la Bible, imaginez-vous, tout aurait été obligé de croire ce que cet homme dit, si son nom était écrit dans la Bible. Non, Dieu n'oblige personne. Dieu, lui, il accomplit des promesses. Et si nous sommes enfants de la promesse, alors nous croyons les promesses et nous voyons leur accomplissement. Cela s'accomplit aussi ce que, ici dans Luc 7, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30, nous lisons. Luc 7, verset 27, en relation avec Jean, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Oui. Voici, j'envoie mon salut. Au verset 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Et ici aussi, nos frères s'arrêtent et disent, frère Branham était plus qu'un prophète. Mais comment plus? Quoi plus? Les prophètes ont annoncé la parole, mais Jean-Baptiste, lui, il a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si nous lisons le verset jusqu'à la fin, verset 28, cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Dieu ne donne sa gloire à personne, à aucun autre. Il n'y a aucun homme sur terre qui a le droit d'être honoré et glorifié. Donc, pardon, glorifié. Donc, toute la gloire appartient à notre Dieu. Ensuite, au verset 29 et 30, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Dieu n'avait même pas parlé ici de baptême. Il a seulement donné la promesse. Il ira devant moi, mon messager, devant ma face pour préparer mon chemin, devant moi. Mais comment est-ce que cette préparation-là du chemin allait avoir lieu? Ça, le Seigneur l'a sûrement révélé dans le temps de son accomplissement. Mais la chose la plus grave et la chose la plus triste suit au verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Une parole très sérieuse. Pas seulement qu'ils aient rejeté le prophète ou bien alors le message, mais ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Ils ne se sont pas soumis dans la volonté de Dieu. Et cela signifie ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Cela signifie rendre nul et rejeter le dessein de Dieu à son égard et continuer dans l'esprit religieux et dans sa religion. Et cela conduit à ce qu'on ne peut reconnaître le jour de la visitation de Dieu. Et disons les choses aujourd'hui de manière très claire, sans faisant mention à ma personne. Celui qui ne prend pas part à ce que Dieu, depuis 1966, fait sur terre, est un moqueur, est un homme qui, donc, contredit Dieu en face et qui pêche avec esprit. Et je vous demande, combien depuis 1965 aurait pu connaître la promesse d'un prophète, qu'un message, etc. Est-ce qu'il y en a un parmi nous avant 65, jusqu'à 1965, aurait pu comprendre qu'il y a un message promis dans la Bible et que le ministère de Frère Branham est dans la Bible promis pour l'Église? Qui? C'est seulement après 66 que le Seigneur a révélé cela. Et nous voyons la même chose partout. C'est seulement après le retour à la maison du messager de Dieu qui avait apporté le message que maintenant le message pouvait être apporté dans le monde entier. Et ça, c'est ce que Dieu a pris soin de faire avant. Et personne n'a besoin comme ça de fabriquer quelque chose avant que cela arrive. Non. Nous avons été placés dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu fait, pour avoir part à ce que Dieu fait. Ce n'est pas nous qui avons essayé de faire quelque chose. Et en regardant en arrière aujourd'hui, si nous savions tout déjà à l'avance, et regarde, tout un livre fait seulement parler de ce que le prophète a dit, de ce que le prophète a dit, de ce que le prophète a fait. Moi, je suis intéressé au livre de Dieu, la Bible, qui nous dit ce que Dieu a fait et ce que Dieu a promis et de ce que Dieu fait maintenant. Pas des livres qui parlent d'un homme, mais qui élèvent un homme et qui parlent de ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Il ne s'agit pas d'élever un homme et de glorifier un homme. Ce n'est pas par cela que quelqu'un atteindra le but. Nous vivons maintenant dans l'heure de Dieu, dans laquelle Dieu nous ramène à lui et à sa parole. En fait, aujourd'hui, j'ai un sujet particulier sur le cœur et s'intitulait La marque de la bête. Et ce qui est lié à cela, le dernier dimanche à Zurich, j'ai seulement comme ça touché la surface. Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné à son peuple une confession pour sa marche, une confession de foi venant de la bouche du Seigneur. Je voudrais rapidement mentionner cela, le temps passe très rapidement. Mais lisons ce que Dieu a dit dans Deutéronome, le chapitre 6, pour aussi ici, en cet endroit, devant la face de Dieu, considérer ce sujet, et voir le contraire. Dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tous nous savons ce que c'est. La confession du peuple d'Israël dans la Mezouza et ce signe avec le texte de Deutéronome. Chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, est écrit dans ce petit matériel, ce petit objet, appelé la Mezouza par les Juifs. Et ce petit objet, la Mezouza, avec le texte de la confession de foi juive, est à la porte de chaque hôtel. Il n'y a aucune maison en Israël. Même les athéistes et les communistes ont cet objet-là, la Mezouza, à la droite des linteaux de leur porte. Et c'est ainsi que les Juifs en Pologne et dans tous les autres pays, particulièrement, ont pu être retrouvés parce que ce signe était à leur porte et cela les a trahis en fait. Mais ici, le prochain point devait être sur le front et sur la main. Et quand on considère toute la révélation, on constate que, justement, l'autre confession doit être aussi portée au front et à la main, mais appelée signe de la marque de la bête, en tant qu'appelée la dernière marque, la dernière puissance qui existe sur terre dans le rétablissement du dernier empire avec son siège à Rome, car tous les autres sièges sont seulement des centres comme ça à côté. Mais lisons les différents versets. Donc, dans Apocalypse, nous voyons donc le contraire. D'un côté, la confession de foi juive de la bouche éternelle et la marque de la bête qui doit être aussi sur le front et sur la main. Dans Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 au verset 18. Apocalypse, chapitre 13, verset 16, du verset 13 au verset 18.
Die Kleinen wie die Großen, die Reichen
Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes même. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges. Pardon, verset 16, on a dit. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Ensuite, verset 17, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, verset 16, Apocalypse 13, à partir du verset 16. Le nom de la bête ou le nombre de son nom ou le nombre de son nom. Les deux vont ensemble recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et maintenant, le verset 18 est la réponse de Dieu. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, la marque de la dernière, du dernier empire. Et vous pouvez même regarder sur un billet de dollars. Le dernier ordre mondial. Donc, introduit par la Maison Blanche. Et dans ce temps, nous entendons toujours de nouveau parler, n'est-ce pas, du nouveau ordre mondial. Il voulait déjà présenter ce nouveau ordre. Déjà, dans le Troisième Reich, un seul royaume, un seul Führer, un seul Führer. Et maintenant, ce royaume-là apparaît et tout est uni. Tout est uni. Et écoutez, s'il vous plaît. La marque de la bête, tout le monde peut la lire. Donc, il y a quatre bêtes et quatre empires. Tous peuvent exactement lire dans les Saintes Écritures ce que signifient ces symboles. Et ici, le résumé direct de la dernière, du dernier empire. Et ensuite, de cet homme dont son nombre sera 666, c'est-à-dire Vicarius Filii Dei. Je vais, Ludwig Schneider de Jérusalem, je vais devoir le publier dans la dernière lettre scolaire. Ludwig Schneider a fait la plus belle présentation là-dessus. Cela servira à éditer cela pour que nous puissions nous-mêmes avoir pas besoin de le faire. Il l'a déjà fait. Nous avons déjà assez de problèmes et on nous veut sûrement plus de bien, mais on peut éditer ce qu'il a déjà publié. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple d'Israël, il leur avait donné une confession de foi à eux. Il leur avait donné cela pour leur marche. Quand tu t'assis, quand tu t'es couché, quand tu te lèves, quand tu es à la maison, quand tu es en voyage, quand tu as mangé, avec tes enfants, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Parle avec eux de la parole de Dieu, de ce que Dieu a donné à son peuple. Vous savez que j'ai lu aussi l'histoire de l'Église et encore une fois, et même parfois même pendant la nuit, jusqu'à dans la nuit. Et celui qui ensuite regarde dans l'histoire de l'Église, comment est-ce que la confession de foi dans la chrétienté a été formulée dans le christianisme? Et comment est-ce que tous dans le christianisme se sont donc jurés de garder cette confession de foi, soi-disant chrétienne? Et dans cette confession, il n'y a plus de traces de ce seul Dieu éternel, mais seulement ils confessent en fait trois personnes de la divinité. Il confesse la Trinité. Donc, c'est tout à fait une autre confession. Donc, un Dieu qui est étranger et une confession qui est étrangère aux Saintes Écritures. Une confession qui ne confesse pas le seul Dieu éternel, mais trois personnes de la divinité. Donc, la Trinité. Et on doit se demander et voir d'où sont venus tous ces gens-là qui se sont rassemblés à Nicée, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais il y a une seule chose qui les a touchés tous. Ils avaient une ambition à tous, c'était de maudire le peuple d'Israël et de rejeter l'Ancien Testament et donc d'interpréter le Nouveau Testament. Ce n'était rien d'autre que des interprétations dans tous ces différents conciles dans le déroulement des âges. Et je le dis particulièrement avec mon ami frère Ménette, nous avons, n'est-ce pas, dans beaucoup de dénominations eu accès. Et toujours de nouveau, la question a été posée. Est-ce que vous croyez à la confession eunicienne et caldocienne? Est-ce que vous dites de la Trinité? Est-ce que vous vous confessez de la Trinité? Même alors qu'il y avait eu, on voulait avoir une émission de télévision. Justement, dans la première phrase, il était écrit. Ils exigent, ou bien la condition pour qu'on puisse avoir une émission de télévision, c'est de confesser la confession du conseil de Nicée, du concile de Nicée. Et ensuite, ils disent ce que c'est que cette confession, c'est que Dieu, d'éternité en éternité, est constitué déjà de trois personnes éternelles. Non, non, non. Un seul Dieu n'existe pas. Mais maintenant, tout repart à ce point. Point. Il y a 9 églises de ces 200 ou bien 350 se sont déjà identifiées être pareilles à Rome. Et bien aimés amis, nous sommes très plus proches de la fin que nous l'imaginons ou bien que nous puissions le croire. Et tous, maintenant, vont recevoir la marque de la bête sur leurs mains et sur leur front. La confession de Nicée qui a été infiltrée dans le christianisme et qui est acceptée de tous, disant qu'il y a trois dieux éternels. Imaginez-vous que le Fils sera éternel, le Père éternel, le Saint-Esprit éternel. Père, donc la personne, le Père est une personne, Saint-Esprit est une personne, le Fils est une personne. Ce n'est rien d'autre et que un blasphème. Et cela n'est pas écrit une seule fois dans la Bible. La Trinité n'est même pas écrite dans la Bible. Pas une seule fois, il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu le Fils. Pas une seule fois, il est écrit dans la Bible. Dieu le Saint-Esprit. Pas une seule fois. Pas une seule fois, il est écrit dans la Bible. Que Dieu, en tant que Père, a engendré déjà dans l'éternité le Fils et fait naître le Fils dans l'éternité déjà. Même ces pensées-là sont un blasphème. Comment est-ce que Dieu peut être Dieu en même temps, Père et Mère? Comment est-ce qu'il peut engendrer et faire naître? Tout cela vient du paganisme. Mais ces soi-disant chrétiens-là, ont accepté cette confession de foi. Et je vous dis que le temps arrive, il est très proche, où tous vont être obligés d'accepter cet enseignement. Ils vont être obligés d'accepter et de confesser et d'accepter ça. Ou bien alors ils vont perdre le droit donc d'accepter, ou bien donc ils vont perdre le droit d'exister en tant qu'église ou bien église libre. Ils vont perdre leurs droits. Bien, mes frères et sœurs, je pourrais encore lire les différents versets bibliques d'Apocalypse 14. Lisons rapidement Apocalypse 14, versets 6 jusqu'au verset 13. Ici, nous avons, oui, nous allons sûrement et pas lire tout, pas pouvoir lire tout. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et ensuite, suit la description de ce que nous venons justement de considérer déjà. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant arrive. Un autre, un second, le verset 8, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur, de sa débauche. Et tous ont été obligés d'être soumis à sa puissance. Et tous ont été abreuvés du vin, de la fureur, de sa débauche. Et cela est écrit dans Jérémie, chapitre 51. Ils sont sous. Ensuite, le verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et ensuite, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, etc. Ensuite, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si nous continuons à lire dans Apocalypse 15, ensuite, nous venons ici justement, nous allons venir aussi avec cela à la fin. Apocalypse 15. Et ici, seulement. Verset 2 jusqu'au verset 4. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Le troupeau des vainqueurs, qui n'ont pas marché sur le chemin large et qui n'ont pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leur main, mais qui sont restés dans la parole de Dieu et qui ont été scellés du Saint-Esprit. Et ensuite, cela continue au verset 3 pour nous montrer que tout cela sont résumés des nations. Donc tout cela vient des nations et aussi d'Israël. Ici il est écrit, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Encore d'Apocalypse, chapitre 16, et ici, directement à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. On pourrait continuer à lire et continuer à lire. Bien-aimés frères et sœurs, il y aurait encore beaucoup à dire dans ce contexte des choses. Mais encore la pensée principale, l'Église catholique romaine parle de piliers sur lesquels l'Église est fondée. Et le premier pilier, c'est la confession de la Trinité, d'après leur manière de dire. Ils parlent de la Sainte Trinité. La première, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est la confession du baptême trinitaire romain, donc de l'Église romaine. Et ils disent que, vous savez quoi? On doit en fait aller comme Samson et avec une main saisir l'un des piliers et avec l'autre main saisir l'autre pilier pour que tout s'écroule. Je n'ai aucun choix. Je n'ai pas d'autre choix. Nous sommes arrivés à la fin des temps et la vérité et le mensonge et la parole de Dieu seule est la vérité dans toute éternité. Et notre confession de foi est ce que Dieu a dit et a ordonné dans sa parole. C'est ce que nous voulons avoir sur notre front et sur nos mains et sur nos pieds. Nous voulons le porter dans nos pensées, dans ce que nous faisons et dans notre marche. C'est ce que notre Dieu nous a accordé comme grâce. Et maintenant, sur cette pensée, si Dieu n'avait pas envoyé un prophète, alors moi, j'aurais pas su tout cela, premièrement, et vous non plus. Et personne aurait su toutes ces choses. Dieu, dans notre temps, devait envoyer un prophète pour justement nous accorder l'introduction dans la partie prophétique de l'histoire du salut par la grâce de Dieu. Et ça, cela a eu lieu justement par le ministère de Frère Branham. Et nous profitons juste, n'est-ce pas, de cela, tel que nous profitons aussi du ministère de Paul aujourd'hui encore, nous profitons du ministère de Pierre jusqu'à aujourd'hui encore, nous profitons du ministère des apôtres et des prophètes. Et nous faisons qu'en tirer de la bénédiction et de la bénédiction, comme aussi du ministère de Frère Branham. Mais toute l'honneur et toute la gloire est apporté seulement à notre Seigneur et notre Dieu. Nous croyons par conviction que ce seul Dieu éternel, en dehors duquel il n'y a aucun autre Dieu et il n'y aura aucun autre Dieu dans toute éternité. Ce seul Dieu éternel a pour accomplir son propre dessein du salut au ciel, en tant que notre Père, sur terre, dans son Fils seul engendré par lui. Et à nous, par le Saint-Esprit, il s'est révélé. Et nous avons ainsi reçu l'adoption. Et nous remercions Dieu pour cela. Nous n'avons rien à voir à faire avec la philosophie de laquelle Paul nous exhorte à nous éloigner. Mais nous avons affaire à l'accomplissement du dessein du salut de notre Dieu. Et pour cela, nous devrions lire Romains 8, et nous avons encore une remarque à faire pour tous les frères qui contredisent le Seigneur et disent que Apocalypse 10 est déjà accompli et est derrière nous. Et j'ai la grande question à poser. Et j'espère que ces frères-là, j'espère qu'un jour ils viendront à Krefeld, comme maintenant en juillet, le 18 et le 19 et le 20 juillet. Et tel que cela s'est passé, ils sont venus ici en juillet et ils ne m'ont même pas appelé. Mais j'aimerais qu'il y ait un entretien avec eux. J'aimerais qu'ils viennent et qu'il y ait un entretien avec eux. Et ma question à eux, ils prétendent que l'Apocalypse 10, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, que le septième ange de trompette, comme ils disent, ma question, est-ce que le septième ange de trompette a déjà sonné la trompette? S'il a sonné la trompette comme il le prétend, est-ce que même ce que le premier ange de trompette quand il sonnera la trompette, ce qui va s'accomplir, est-ce que c'est déjà accompli? Non. Et que comment est-ce que alors ce qui se passe dans le 7, si déjà ce qui devait se passer dans la première, dans la deuxième, dans la troisième trompette, ce n'est pas encore accompli, comment est-ce qu'il peut prétendre que ce qui va s'accomplir dans la septième trompette, c'est accompli? Comment est-ce qu'il peut prétendre que le septième ange a sonné la trompette si ce qui est décrit. Quand le premier ange de la tempête sonnera, s'accomplira. Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre de telles choses? Ce sont simplement des incompréhensions. On doit vraiment éclaircir ces choses. Et je me réjouis de ce que le Seigneur a une épouse en tant qu'époux et que le dernier appel retentit maintenant à l'épouse de l'agneau, à tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église et qui, par l'Esprit de Dieu, se laisse conduire dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, recevez ça dans votre cœur. Encore pour mentionner ce qu'on a dit hier. Romains 8, verset 28, ce qui est écrit ici. Recevez ça dans votre cœur. Recevez cela dans votre cœur, dans vos cœurs. Cela vous appartient. Cela vous appartient. Cela est adressé à vous tous. Cela nous concerne. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères et sœurs, que tu le comprennes ou pas, Dieu, lui, il sait. Et la fin sera bien. Car, selon son dessein, nous avons été appelés. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le destin de notre salut, le destin du salut de notre Dieu. Il est devenu semblable à nous dans un corps de chair pour que dans la résurrection, nous puissions lui être semblable à son image. Loué soit le Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Maintenant, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Dites Amen. Dites Amen. Rien ne change à cela. Rien ne peut changer ça. Ça, c'est Dieu qui l'a déterminé comme ça, et cela demeure ainsi. Rien ne peut nous séparer de ça, de cet amour de Dieu, prédestiné, appelé pour cela, déjà justifié et glorifié. Maintenant, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il dit maintenant le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Verset 33, pardon. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui les justifie. Nous n'allons jamais voir qu'un enfant de Dieu accuse un autre enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Qui est l'accuseur? C'est Satan. C'est Satan qui accuse un frère. C'est Satan qui accuse des frères. Et tous les frères qui accusent là sont sous l'influence de Satan. Que tous puissent l'entendre dans le monde entier. Le Seigneur nous a appelés à la liberté et nous le remercions de notre cœur pour cela. Encore les derniers versets, cela est écrit ici, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien. Absolument rien peut nous séparer, nous qui avons été rachetés, dont nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Aucun accusateur, aucune accusation, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ qui a été manifesté sur la croix à Golgotha et qui maintenant encore est manifesté dans tous les rachetés. Verset 36, c'est écrit, cela qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'est-ce que je dois dire? Depuis 30 ans, rien d'autre que un meurtre, rien que de la boucherie, comme cela n'existe pas sur terre. On est mis à mort tous les jours, n'est-ce pas? Comme il est écrit ici, comme il est écrit ici, c'est à cause de toi, qu'on nous met à mort. Tous les jours, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, partout, rien d'autre que du meurtre. Ensuite, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, plus que vainqueurs, dans toutes ces choses, par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Et nous portons son opprobre. Nous allons au-delà du camp pour porter justement l'opprobre du Christ. Je la porte parfois de manière très difficile, mais je la porte volontiers. Verset 38, à cause des élus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, résumons rapidement ensemble. Dieu le Seigneur a voulu les choses ainsi, a conduit les choses ainsi, qu'à la fin du temps de la grâce, nous puissions entendre parler de ce que Dieu a promis et entendre et avoir part et pouvoir avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Je voudrais insister, celui qui aujourd'hui écoute l'appel du Seigneur, entend l'appel du Seigneur, qui ne se donne pas un temps de réflexion, mais tel qu'il est écrit, celui qui entend sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui, nous avons entendu sa voix. Aussi, tous ceux qui n'ont pas encore entièrement pris la décision pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre notre décision pour le Seigneur. Je voulais demander sincèrement, pas pour avoir une confirmation, pour recevoir une confirmation, non, mais je voudrais demander combien croient que c'est vrai ce que frère Branham, dans les 16 citations, a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, mais que c'est le message qui lui a été confié, qui sera précurseur et qui sera porté dans le monde entier avant le retour du Christ. Porté dans le monde entier avant son retour. Et vous allez voir que cela a servi à quelque chose de croire. Le deuxième point est le suivant. En ce qui concerne la confession de foi, en fait, cela me touche le cœur, m'inonde le cœur de voir que toute l'humanité dans toutes les religions, aussi dans le christianisme, est égaré, trompé, menti, des confessions de foi qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Notre confession de foi est dans ce livre, la Bible, dans aucun catéchisme, que cela soit dit encore une fois. Si des lèvres du Dieu Tout-Puissant lui-même, ces paroles-là viennent déjà dans le premier commandement, je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Imaginez-vous, c'est cela, au milieu serait le Père, alors il y aurait encore un à son côté et un autre à l'autre côté. Et Dieu dit, vous ne serez pas d'autre Dieu à côté de moi. Alors qu'est-ce qu'ils font à côté de lui alors? Qu'est-ce qu'ils font à côté de lui? Est-ce qu'ils sont à leur place là? Non, ils ont pas, ce n'est pas leur place là. Ce sont les hommes qui se sont fait cette image. Ils ont été égarés par cela. Que Dieu puisse lui-même régler ça. Je vous le dis, frère Branham l'a dit en insistant. Il a parlé de cet instrument-là, n'est-ce pas, avec trois bouts, et que lors de chaque réveil, l'Église a été frappée par ça. Un instrument à trois bouts. Et maintenant, cela doit être dit. Combien sont prêts à accepter seulement la confession de foi biblique, à défendre la confession de foi biblique, à la croire et à la défendre? Amen. Amen. Tout le reste, nous le remettons à Dieu. Nous n'allons pas pécher. Nous ne livrons pas nos pensées à une décision, nous ne donnons pas notre main à signer une confession qui n'est pas publique. Non. Même la mort ne va pas nous séparer de l'amour de Dieu. Non. La mort va nous transporter dans l'au-delà, dans la gloire. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Même quand le temps viendra où ils obligeront à accepter cette confession de foi satanique. Mais il y a quelque chose qui doit être dit concernant l'apostasie aussi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'homme de péché va être manifesté quand cette apostasie sera là. Maintenant déjà nous remarquons comment est-ce qu'il est là et comment est-ce que l'homme du péché, l'homme impie, toujours plus prend de l'ampleur. Et celui qui va dans Hébreux chapitre 3, verset 12, sera aussi informé. Et celui qui va dans l'Ancien Testament reçoit aussi plus d'informations. Si le peuple d'Israël quand le peuple d'Israël se séparait du seul vrai Dieu éternel et servait d'autres dieux, c'était la chute du Dieu vivant. Et à ce moment-là, où dans le christianisme, ces gens-là, là-bas, eux se sont séparés de ce seul vrai Dieu, et on fait des dieux. À ce moment-là, alors cela a lieu et cela a lieu encore jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que c'est la chute du peuple de Dieu, de se séparer du seul vrai Dieu éternel. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons remercier Dieu pour le ministère de tous les prophètes, le ministère de tous les apôtres, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour l'harmonie que nous y trouvons. Et nous remercions Dieu pour le ministère de Frère Branham, qui nous a apporté le dernier message en accord total avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Aussi, ce qu'on a dit en insistant sur la divinité, sur le baptême d'eau biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui aujourd'hui veulent être baptisés, que cela soit dit, si vous avez consacré votre vie au Seigneur, vraiment consacré votre vie au Seigneur, vous avez expérimenté une conversion, de vous avoir tourné à lui, vous avez expérimenté que vous ressentez que l'accès est là, vous êtes attiré, car il a dit que personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement. Si vous ressentez que la prédication vous a attiré et qui vous attire, venez. Venez à lui. Jusqu'à aujourd'hui encore, il n'a obligé personne. Et tous ceux qui ont été attirés à lui, tous ceux qui sont venus, ils n'ont jamais été rejetés par lui. Personne n'avait besoin de se transformer d'abord, de se changer, de se rendre meilleur. Non, tous pouvaient venir tel qu'ils étaient. Toi aussi, tu peux venir tel que tu es. et consacrer ta vie au Seigneur et ainsi faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu et confirmer cela par le baptême d'eau. Et c'est le Seigneur lui-même qui prendra soin du reste dans ta vie tel que il l'a fait aussi déjà en nous tous. Tu peux bien me rappeler, et ça je le dis encore rapidement, alors que nous avions reçu les premières prédications de frère Branham et que nous avions commencé à les traduire. Vous savez, mon papa était aussi prédicateur. Le frère Schobel le sait, d'autres le savent aussi. Mais quand le sujet du baptême vint, alors il disait, si cela est écrit dans la Bible, alors que cela ait lieu, je le crois. Et lors du premier baptême à Krefeld, dans la piscine de la commune, dans la Gerberstrasse, la rue Gerber, j'ai baptisé 17 personnes, et mon père aussi et ma mère. Je les ai baptisés aussi. Ils appartenaient aux premières personnes qui ont été baptisées ici à Krefeld, aux premiers qui ont accepté la correction concernant le baptême biblique, et ils ont reçu cela révélé par le Seigneur. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu parle avec nous. C'est la grâce qui nous révèle sa parole et sa volonté. C'est sa grâce que nous ayons la crainte dans notre cœur et que nous puissions suivre le Seigneur. Êtes-vous heureux d'appartenir aux élus? Acceptez toute l'opprobre, toute l'opprobre du Christ. Acceptez mon opprobre, apportez, n'est-ce pas? Je l'apporte et portez-la avec moi pour que tous ensemble puissions contempler la gloire. Simplement portez, priez les uns pour les autres et allez de l'avant. Et vous aussi, en Italie, bien-aimés frères et sœurs, allez de l'avant avec le Seigneur. Dieu rendra toutes choses merveilleuses dans tous les peuples, les langues et les nations. Avec vous à Paris, avec vous en France, en Belgique, partout, à Bruxelles, Dieu réglera lui-même toutes choses partout dans toute l'Europe et dans le monde entier. À la fin, il y aura une église épouse qui apparaîtra sans tache, sans ride, irréprochable. Elle sera qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Tous les croyants seront sous la conduite directe du Saint-Esprit, rachetés par le sang de l'agneau, conduits par le Saint-Esprit, un seul cœur et une seule âme, dans l'harmonie divine, les uns avec les autres. Au Seigneur notre Dieu soit l'honneur, aussi pour ce jour décisif. C'est un jour décisif, pas seulement pour nous ici, mais pour le monde entier, et que Dieu puisse accorder sa grâce, que sa victoire soit manifestée, et que tout le peuple dise Amen, Alléluia, et que tout le peuple dise Amen. Nous nous levons pour la prière. Je ne sais pas si les deux sœurs ont encore un cantique qui s'ajuste. Nous pouvons déjà ensemble entonner un chœur. Peut-être encore une fois, tu es digne. Tu es digne. Alléluia.
Alléluia.
Maranatha, Vadaskenvort,
In der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut, welche Aussicht Brot des Lammes ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies sein Eigentum. Welche Aussicht Brot des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit. Bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht Brot des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen. Ja, Maranatha.
Oui, Maranatha. Je le dis encore, seulement cela pour votre information, j'ai devant moi la lettre circulaire de décembre 2006, et ici, nous avons une photo de la table de brochures en Suisse où toutes les prédications de Frère Branham sont épilées. Et en Suisse, à Zurich, on le voit mieux, donc la table avec toutes les brochures là-dessus. Et il était donc nécessaire, que quelqu'un encore traduise en Suisse, que quelqu'un traduise en Allemagne, et que c'était nécessaire. Je vous dis la vérité, pas à cause de moi, mais à cause de l'Église. Toutes ces déviations-là, toutes ces choses faites par des frères comme ça doivent arrêter, doivent cesser. L'Église du Seigneur doit maintenant se retrouver dans l'union, dans l'harmonie. Les croyants doivent être ensemble. Ce sont les soi-disant pasteurs qui se sont eux-mêmes établis, qui ensuite conduisent les brebis dans l'égarement et qui attirent des disciples à leur suite. Prions à partir de maintenant que le Seigneur puisse lui-même accomplir sa propre prière de Jean 17 pour que tous soient un, moi en eux, Père, moi, toi en moi et moi en eux. Que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit ici ou bien là, que tous ceux qui sont nés de Dieu, que tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, tous ceux qui ont été trouvés par le Seigneur et qui ont une espérance vivante par la résurrection, par la nouvelle naissance et qui ont accepté cette parole de l'heure, qui puissent se retrouver dans l'harmonie et dans l'union, et que son Église, et que le Seigneur puisse lui-même bâtir son Église et l'achever pour le jour glorieux de son retour. Ensuite, la question, qui veut consacrer sa vie entièrement au Seigneur et qui veut se laisser baptiser? Avons-nous quelques-uns ici qui veulent se laisser baptiser? Alors, levez rapidement les mains. Je vois qu'une seule main là-bas, deux, trois, quatre. Bon, alors, venez s'il vous plaît directement devant. Avez-vous encore quelque chose sur le cœur, frère Mullin? Oui. Oui, merci, merci. Oui, oui. Loué soit le Seigneur. Merci. Venez dans la foi. Vous parlez tous l'allemand, oui. Oui, n'est-ce pas? Oui. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Tu as consacré ta vie au Seigneur. Tu as consacré ta vie au Seigneur. Toi aussi. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avez la foi, avez la confiance. Dieu vous aime et vous a sauvé. Pardonnez tout. Vous avez reçu la grâce. Et maintenant, vous marchez le chemin de la foi et le chemin de l'obéissance. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Actes Apôtres, chapitre 2, verset 41. Tous ceux qui reçurent sa parole, se laissèrent baptiser. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui rassemblés l'ont déjà fait et maintenant le Seigneur vous a appelé, vous a ajouté. Sœur, tu vas encore enlever ton pantalon et porter une robe et une jupe. C'est comme ça dans l'église que des femmes soient habillées comme des femmes et que des hommes soient habillés comme des hommes. Aussi avec ce jour, c'est pas seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur qui est apporté en accord avec la parole de Dieu et mis en ordre. Cela ne commence pas à l'extérieur, ça commence dans le cœur. Mais si à l'intérieur, ça commençait, alors, cela se reflète aussi à l'extérieur. Alors, nous allons prier pour vous et vous remettre à la grâce du Seigneur et vous remettre et vous souhaiter les bénédictions de Dieu. Êtes-vous prêts à partir d'aujourd'hui à suivre le Seigneur dans son chemin, à marcher dans ses voies, à lui être fidèle jusqu'à que vous passiez de la foi à la vue. Alors dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous élevons les mains et prions. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, bénis nos frères, bénis nos sœurs. que tu appelles. Nous te consacrons leur vie. Accepte-la. Accepte-les. Accepte leur vie. Agrée-les. Et sois avec eux tous les jours de leur vie. Alléluia.
Amen.
Nous allons ensuite demander au frère Helmut Miskis qu'il puisse venir et donc baptiser. Vous pouvez un peu attendre. Nous restons debout. Notre bien-aimé frère Müller et notre bien-aimé frère Momo vont de nouveau servir dans les pays de la langue serbe, dans l'ex-Yougoslavie, maintenant en Serbie, et Dieu a déjà de manière merveilleuse pu utiliser frère Müller et le frère Angelo Prestovic en tant que traducteur, et Dieu a fait de grandes choses aussi. Là, une moisson existe de dames précieuses qui ont entendu le dernier appel, et le frère Müller et le frère Momo invitez tous pour le deuxième samedi, le 9 novembre. Nous serons tous dans la deuxième grande ville de la Serbie, à Novi Sad, et là-bas pour prêcher la parole. Nous voulons tous prier, et s'il vous plaît, priez tous, remerciez tous. Bien-aimé Seigneur, nous te demandons pour nos deux frères que tu puisses les bénir. Sois avec eux, que ta parole, soit dans leur bouche et dans leur cœur, et que les derniers soient appelés à sortir. Bénis nos frères et qu'ils soient une bénédiction dans le saint nom de Jésus-Christ.
Alléluia.
Amen. Allez au nom du Seigneur. Amen. Amen. Pensez aussi à moi pendant ce voyage très long par l'Inde, Dieu voulant, commençant au fin fond du nord de la Noé-Delhi, Noimbine, Atramat, tous ces pays là-bas, et puis Bijavada, tous ces pays, Chennai, et aussi Colombo, Sri Lanka, je crois à peu près 14 jours. Donc je pars mercredi, pensez à moi dans vos prières, le temps est là pour parler clairement, sans parabole, regardez à ce que nous pourrions perdre. Le peuple de Dieu sera seulement aidé si la vérité est prêchée. Les erreurs, l'erreur lit, la vérité libère. Nous reconnaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. C'est ainsi. Alors nous remercions Dieu de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Recevez des salutations et saluez partout dans le monde entier, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique. Recevez des salutations partout où vous allez, saluez partout jusqu'à l'extrémité de la terre. Maintenant, nous demandons au frère Schmitt de prier et ensuite nous chantons encore un chœur et nous nous remettons à la grâce de Dieu. Grand Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions de ce que ta parole aujourd'hui a encore produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Disons, il y a encore des personnes là qui sont prêtes avec une bonne conscience devant toi, marcher. Nous te remercions, Seigneur, aussi pour ces âmes qui se sont consacrées. Seigneur Jésus, bénis-les. Bénis le baptême. Bénis ceux qui sont là comme témoins. Et sachant que tu es encore le même encore aujourd'hui, tu réponds, ta parole est encore la même. Dans ta parole et par ta parole, nous avons la vie Et la vie nous a été accordée. Nous te remercions. Je te répète encore une fois, merci pour les âmes qui toujours de nouveau viennent à toi, que ce soit des jeunes ou bien des personnes plus âgées, il n'y a pas d'importance pour toi. Seigneur Jésus, nous te remercions. Bénis de la plénitude de ta grâce. Et nous voulons te louer et t'exalter et louer ton Saint-Nom. Ô Dieu du ciel, dans ton merveilleux nom. Amen. Combien croient que la parole produira l'effet pour lequel elle a été prêchée? Aussi, ce qui a été prêché aujourd'hui, croyez-moi, ça produira l'effet pour lequel. Ça produira l'effet pour lequel cela a été envoyé. Et que la paix de Dieu, qui est au-dessus de toute compréhension humaine, inonde nos cœurs et gouverne nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, la grâce de Dieu soit avec nous tous. Maranatha, le Seigneur revient. Je crois qu'il revient dans notre temps. Je le crois simplement. Je crois que le retour de notre Seigneur est proche. Que Dieu vous bénisse. Soit avec vous. Pensez à la parole du psaume, le psaume 19, à partir du verset 8 que le frère Kupfer avait dans le cœur. Pensez aussi au témoignage que le frère Thomas Schmidt a ramené. Il a même remis des salutations. Il m'a même ramené des salutations de Billy Paul à moi. Dieu peut toucher les cœurs comme des eaux. C'est encore le temps de la grâce et encore le Saint-Esprit agit. Et la foi vient de la prédication et la prédication, nous l'avons assez entendue. Alors, il faut aussi qu'il y ait assez de foi en nous. Que Dieu bénisse tous qui ont encore une requête. Qui a encore une requête corporelle ou bien que nous puissions apporter au Seigneur. Avez-vous déjà? Nous l'avons déjà fait de la foi. Amen. 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 Nous vous remettons à sa grâce. Nous chantons encore Alléluia soit glorifié jusqu'à la prochaine fois.
Alléluia, sei gepriesen. Alléluia, amen. Alléluia, sei gepriesen.
Wie viele haben das?
Combien ont bien compris ce qui a été dit aujourd'hui ici. Oui, oui. Oui, frère Müller. Ça, Dieu l'a fait. Amen. Que je sois avec vous, qu'il soit avec vous, frère Gilbert, avec vous, frère Tati, avec vous, avec tous les frères, dans tous les peuples, avec vous, en Tchéchaï, Slovaquie. Où est le frère de la Pologne? Qu'il puisse aussi lever la main. Que je le bénisse. Oui, que Dieu te bénisse, bien mes frères. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous de loin et de près. S'il vous plaît, venez tous au baptême. Allez tous au baptême. Et c'est seulement après que le culte est terminé et que vous pourrez aller à la cantine, vous fortifier. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse.